D'Europe numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici Europe numéro 1.
Here is Europa number 1.
This is Europe number 1.
Il fera jusqu'à 26 à 27 degrés à Paris cet après-midi, 29 à Nantes, 32 à Bordeaux et à Périgueux, à Toulouse et 33 à Pau.
Vous êtes formidables. Pour vous en convaincre, Europe numéro 1 présente comme chaque mardi l'émission de Jacques-Antoine. Vous êtes formidables.
Salut les copains.
Une émission de Daniel Philippe.
Alors ne tirez pas.
Du cœur au boulot, wow, Mélodie Parade, Gérard Klein.
Troisième but, 3-0. Nous sommes, ils sont tous ensemble. La France entière est championne du monde de football. Historique.
Européen, découverte. Européen.
We copy you down, Eagle. You're looking good here.
Voici donc Musicorama sur le Tour de France, présenté par l'huile de sieur.
Pulpeux comme la pêche.
Marc Tronchot.
Salut à tous, bienvenue dans le studio des enfants d'Europe 1. C'est un moment un peu particulier que nous allons aujourd'hui passer ensemble. Pourquoi ? Eh bien parce que dans l'histoire de cette maison, il y a des personnalités, des passions, des voix qui ont marqué plus encore que d'autres. Des personnalités à part, au parcours souvent étonnant, qui ont partagé et partagent toujours leur passion avec des millions d'auditeurs. Des voix qui ont identifié, coloré, pour ne pas dire qu'elles ont parfois mis le feu à l'antenne. Des hommes qui ont vécu avec Europe 1 une véritable histoire d'amour, avec des colères, des coups de gueule et ces ruptures qui ne sont jamais totalement consommées, tant que reste la flamme et l'étincelle est toujours bien présente dans le regard de mon invité. Je peux vous l'assurer. Je vais faire un peu durer le plaisir et le suspense. Un petit coup de machine à remonter le temps. Nous voilà en mai 68 à Marseille. Et le correspondant d'Europe numéro 1 constate ce jour-là sur l'antenne la paralysie de sa ville.
Depuis 10h ce matin, tous les commerçants de Marseille ont baissé leurs rideaux. Déjà, depuis mardi, les magasins à succursales multiples étaient en grève. Il est donc tout à fait impossible à l'heure actuelle de s'approvisionner en quoi que ce soit. Même les cafés et débits de tabac sont fermés. Cette situation doit durer jusqu'à minuit. Depuis ce matin également, et pour une durée indéterminée, les employés municipaux sont en grève. Le ramassage des ordures ménagères n'a pas eu lieu. Les ateliers des petites et moyennes entreprises ont également cessé le travail. Cette fois, la vie paraît complètement arrêtée à Marseille. Les recommandations de la CGT ne semblent pas avoir été toutefois entendues, du moins ce matin, car il n'y a pas eu de rassemblement ou de défilé en ville, sauf à 8h sur le port où les dockers ont tenu une réunion d'information. En ce qui concerne l'essence, c'est toujours la pénurie. Seuls quelques postes ont fonctionné ce matin et de longues files d'automobilistes attendaient patiemment leur petite ration. Les transports, c'est toujours nul, sauf pour l'extérieur. Des cars sont mis en service à destination de Lyon et Paris, de Bordeaux et Toulouse.
Voix familière que vous avez forcément reconnue, celle de Monsieur Saccomano. Salut Eugène.
Salut.
Merci d'être présent.
Je suis heureux d'être là, c'est bien.
Un peu ému ?
Un petit peu tout de même, parce qu'il y a des souvenirs dans cette maison qu'on ne peut pas effacer.
On a commencé par Marseille, ça paraît assez logique, non ?
Oui,
Marseille est pur jus, non ?
Eh oui, j'ai vécu une vie professionnelle de 10 ans à Marseille, simultanément au Provençal, qui était le grand journal, le plus gros journal de Marseille, dirigé par Gaston Defferre. Et puis, pendant ces 10 ans-là, j'étais le correspondant d'Europe numéro 1, dans cette ville.
Devenu voilà. Correspondant d'Europe numéro 1, justement, dans quelles conditions ?
Ah ben, je crois que le précédent correspondant, qui s'appelait Lafont, avait été promu, et il ne pouvait pas tellement se déplacer en ville ou dans la région, et il m'avait proposé donc de le remplacer. Alors j'avais une espèce de d'appareil bleu qui s'appelait un Marcy, je crois. C'est un appareil suisse, un magnétophone suisse, et j'ai commencé comme ça, au pied levé, en recevant une lettre de confirmation tout de même quelques semaines plus tard de Jacques Paoli, me disant oui, vous êtes bien le correspondant de Marseille.
Très attaché à ta région, Eugène, à ton sud.
Ah oui, très attaché. Moi, je suis né à Marseille, mais en fait, j'ai grandi dans le Gard, dans le département du Gard, d'abord dans la région d'Alès, puis celle de Nîmes. Et là où je suis allé au lycée à Nîmes, où j'ai tapé dans mes premiers ballons à Nîmes Olympique. Bref, j'ai été où je suis descendu dans le bois, ou comme on disait, c'est-à-dire le rond, l'endroit où on, un rond de charrette où on va taquiner les taureaux. Donc, je suis très marqué culturellement par la ville de Nîmes. Mmh. Ça, c'est vrai, ça me fait.
Et le particularisme marseillais, c'est quoi? C'est une réalité profonde? C'est de la couleur entretenue?
Marseille, non. Marseille, c'est venu quand je suis arrivé à Marseille, parce que lorsque j'ai quitté Nîmes et qu'on m'a muté à Marseille, j'avais un grand chef qui était dauphinois et qui m'avait dit « Giacomano, vous allez apprendre votre métier à Marseille, au marbre ». Alors je suis arrivé, d'abord c'était pour moi, venant de Nîmes, c'est la grande ville. Donc j'ai pris une chambre d'hôtel dans un premier temps, et puis j'ai commencé à la rédaction régionale, c'est-à-dire que je bâtonnais la copie des correspondants, et le soir, à partir de 9h30, j'allais au marbre, c'est-à-dire à l'atelier, où là on montait les pages, et c'était passionnant, parce qu'on avait le contact direct avec les typographes, avec les linos, ça sentait le plomb, ça n'existe plus évidemment maintenant, puisqu'on fait de la photo composition, mais c'était vraiment passionnant. Et puis c'est vrai qu'à Marseille, Marseille m'a marqué pour beaucoup de choses, m'a marqué pour la découverte de la vie, des passions. Quand j'ai débarqué à Marseille, je revenais du service militaire, je devais avoir 22 ans par là, et c'est vrai que très rapidement j'ai eu une vie très indépendante, joyeuse, et donc c'était très bien quoi. Puis j'ai eu aussi des maîtres un peu dans le métier qui m'ont appris beaucoup de choses au plan de, parce que j'étais un type un peu en ce qui concerne
un peu brut de décoffrage.
Un petit peu en ce qui concerne des choses en ce qui concerne la culture essentiellement.
Bah tu t'es rattrapé hein.
J'ai essayé de me rattraper, mais là à Marseille c'est un nommé de ville qui était un ancien qui m'a fait découvrir Louis Ferdinand Céline, et même un typographe qui faisait 150 kilos qui m'a fait découvrir Céline. Ensuite j'ai découvert, je connaissais un peu quand même avant, mais tout de même à Marseille c'était plus pratique, le cinéma.
On va parler de tout ça, mais je pouvais pas d'ailleurs faire une émission avec toi sans entendre certaines voix, celle par exemple d'un des très grands écrivains français. 1973, semaine provençale sur Europe numéro 1, au micro Marcel Pagnol.
La Provence intéresse prodigieusement les Parisiens. À Paris, vous voyez, j'étais si peu instruit des mœurs parisiennes et de la topographie. Je me suis endormi dans le train. Je n'étais pas dans un train de wagon-lit, n'est-ce pas? Je me suis endormi dans le train, et puis je me suis réveillé tout à coup, et j'ai vu qu'il n'y avait plus personne dans le train. Et j'ai vu sur le mur, gare de Lyon. Je dis, on est à Lyon. Et je me suis rendormi. Et ce sont les nettoyeurs de wagons qui m'ont fait descendre. D'ailleurs, pourquoi c'est pas gare de Marseille? Enfin.
Il n'y a pas de parfum ni de couleur qui vous manque à Paris?
Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai hésité à venir à Paris parce que je croyais qu'il y pleuvait continuellement et qu'il faisait de très grands froids. Et là, j'étais là-haut dans le nord. Puis on dit monter à Paris, c'est pas comme si on allait dans la montagne. Et puis je trouve Paris très agréable, c'est un merveilleux climat d'ailleurs. Si c'est à cause de son climat qu'il y a tant de millions d'habitants ici.
Et ce problème de l'eau, on le retrouve tout au long de votre œuvre, La Source.
Ben oui, bien sûr, Manon des Sources, c'était là toujours.
La fille du Puisatier.
La fille du Puisatier, bien entendu. Ça, c'est le grand problème de la Provence, ce sont les puits. Et nous avons des sourciers remarquables. Il y en avait un, surtout l'abbé Cuc, qui un jour, pendant que nous tournions en regain dans la colline, il est monté pour nous voir tourner. Alors on lui a dit, dites donc, monsieur l'abbé, il vous manque de l'eau ici, vous êtes sourcier, vous. Il dit, oui, oui. Eh bien, t'en trouvez-nous de l'eau, il dit. Il y en a, mais j'en sens pas ici, je sens de l'eau. Puis, il prend une baguette, un pendule. Il prend un pendule, on le promène, puis il dit, là, vous avez l'eau à 3,20 m. Ah, mes machinistes pourront chercher des pioches. Et moi, je descends à Marseille, parce que j'étais forcé, pour aller porter la pellicule au studio et au laboratoire. Et quand je remonte le soir, il y avait un contreplaqué parce que nous couchions là-haut, dans la ferme d'Angèle. Et sur le contreplaqué, le maître Basson avait écrit « Avons trouvé l'eau à 3,20 m » et elle y était, et elle y est toujours.
Marcel Pagnol en 73. Marcel Pagnol qui se demandait pourquoi la gare de Lyon à Paris ne s'appelait pas la gare de Marseille. Alors, ça c'est assez génial. Pendant qu'on écoutait Pagnol, j'ai gagné un invité qui a tenu Eugène à venir te saluer ce matin. Cet invité, c'est Jean-Pierre Elkabbach, que je salue également. Merci Jean-Pierre.
Non, mais c'est très sympa.
Je tenais à embrasser Eugène Saccomanno parce que c'est vrai qu'Europe 1 a été sa maison d'origine, sa maison natale. Hein, et tu as laissé tellement de souvenirs. Tu as aussi des souvenirs qui sont nés ici. Et ça reste ta maison, même si tu chantes ailleurs. Et ce qui m'a frappé en t'écoutant tout à l'heure avec Marcel Pagnol, c'est que déjà, on sent toujours la pointe d'accent, mais retenue, du jeune qui se retient. Bah, et est-ce que tu as retrouvé, avec le temps, l'accent, les chants de la jeunesse?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je n'ai jamais voulu le perdre sous les conseils d'un type qui faisait Europe Midi ici à Europe et qui s'appelait André Arnaud. Et André Arnaud un jour me dit, parce qu'au début j'avais beaucoup de difficultés, c'était en 1970, et j'essayais d'un peu d'arranger ma voix, et il me dit surtout Eugène ne perds pas ton accent, etc. Alors je l'ai gommé un petit peu, mais je l'ai toujours quand même.
Ça devait être comme concurrence d'accent entre vous deux quand vous
terrible. Lui il avait plutôt l'accent du sud-ouest, il était de Fumel.
Jean-Pierre le Pagnol des médias aujourd'hui.
Jean-Pierre et Eugène, vous avez partagé des moments de football ensemble?
Des moments de football, oui, je crois.
Oui, quelques-uns, mais moi j'ai surtout écouté Eugène Saccomanno. Sacco, il m'a donné envie d'assister à des matchs, il m'a donné envie d'aimer un peu plus le foot en l'écoutant. C'était pas la peine d'aller sur un stade, d'écouter la télé, il y avait Sacco, il y a Sacco.
Et j'ai su très tard qu'il y avait une corrélation très nette entre Jean-Pierre et le football, c'est que il faut savoir que le père de Jean-Pierre, peu de gens le savent, a été vice-président de l'Olympique de Marseille. Il était à Oran et c'est lui.
Et entraîneur, non?
Non. Il avait un commerce là-bas, il avait des affaires et à côté de ça, il s'occupait du football. Il était un passionné, un fou de football et c'est lui qui a envoyé les meilleurs footballeurs d'Afrique du Nord à une époque, Ben Barek, tous ces types-là.
Alcazar. Laurent Di Lorto, qui était le goal de Sochaux, qui est devenu le goal de l'équipe de France.
Voilà.
Et toute mon enfance a baigné dans ces noms, dans le foot, dans les frères Firoud,
Kader et
Firoud, qui jouaient à Nîmes tous les deux. et qui ont été là toute mon enfance et qui me ramenaient des ballons de foot. Sacco, Marseille, mon enfance. C'est de l'émotion, quoi.
Voilà, deux enfants d'Europe 1 qui parlent entre eux. On se retrouve dans quelques instants après une pause.
Marc Tronchot.
Les enfants d'Europe 1 réunis autour d'un des leurs et non des moindres, Eugène Saccomanno. On évoquait tout à l'heure 68. C'est l'année de ton premier livre qui va avoir un certain retentissement. Le titre, c'est « Bandit à Marseille », l'histoire des mauvais garçons sans qui Marseille ne serait pas Marseille, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Il faut le dire et l'avouer. Beaucoup le contestent à Marseille, Paul Lombard, par exemple. Mais le banditisme fait partie de la culture marseillaise. Une femme comme Edmond de Charleroux l'a bien dit. Marseille est une ville blanche et noire. C'est vrai que quand on voit la ville de Marseille, dès qu'on est un peu surélevé à Notre-Dame de la Garde, à la Vierge de la Garde, comme on dit à Marseille, eh bien, on voit une ville toute blanche qui s'étale dans le reflet bleu de la mer. Et c'est une ville blanche et noire. Une ville à la fois de joie et de deuil. Parce que c'est vrai que les coups de calibre foisonnent. Mmh. Et donc, on n'avait jamais fait une histoire du banditisme à Marseille. Et moi, je m'y suis collé alors que je n'étais pas spécialiste. Je m'occupais à l'époque, non pas de football non plus, je m'occupais de variété. Les yéyés notamment. Et puis un jour, me vient l'occasion de faire ce bouquin. Je l'ai fait et j'ai eu... soi-disant quelques ennuis, non, je peux raconter en deux mots ce qui s'est passé. Mais enfin...
Oui, on a dit que la photo de couverture avait posé problème et qu'elle t'avait amené, en gros, à partir de Marseille pour venir demander un poste à Paris.
Alors, c'est
on dit des choses comme ça
c'est... Voilà. On dit des choses, oui, mais il faut quand même un peu corriger, parce que la couverture, effectivement, a été refaite. Et...
Il y avait quoi sur cette couverture?
Il y avait Mémé Guérini et des impacts de balles autour de sa personne. Oui. La couverture a été refaite, le livre est sorti, il a été adapté, on a fait Borsalino, mais il faut dire que la véritable histoire de la pétoche, eh bien, c'est Paul-Claude Innocenzi qui m'a fait une blague téléphonique, et cette blague téléphonique a duré des années, et j'ai eu très peur. Voilà.
Ouais, d'accord.
Je l'ai su très tard, je l'ai su 5-6 ans plus tard.
En tous les cas, c'est vrai, tu l'as évoqué, ce livre va faire parler, il va même inspirer un film, grand succès, tout le monde connaît Borsalino. Eh bien, Borsalino, ça rime avec Eugène Saccomanno, critique du film sur l'antenne d'Europe 1, François Chalet.
Borsalino, c'est d'abord Marseille dans la frénésie des années 30. On dirait une énorme plaisanterie éclaboussée de sang, écrite par un Marcel Pagnol qui aurait donné Dillinger comme fiancé à Fanny, où l'on jouerait à la pétanque avec de la dynamite, avec en arrière-plan une mairie encore plus ouverte qu'une maison close, joviale et tarée, pourvoyeuse de garde du corps pour Jacques Doriot, en attendant de déléguer certains de ses membres à la Gestapo, dans un grand brouhaha d'avocats marrons en mal de chemise brune. Un temps horrible pour ceux qui en ont souffert, malgré les embruns de la mer, le parfum de la race casse et les éclats de rire du soleil. Mais les années transforment tout en folklore, même Jeanne sur son bûcher, même le crime. Un jour, la mort la plus affreuse devient une sorte de légende, aux accents cassés comme ceux qu'égrènent dans le film Le piano mécanique de Claude Bolling. C'est dans ce climat que se déroule Borsalino, aventure de deux petits truands qui, à force de ruse, de carnage, d'amitié aussi, deviendront les maîtres de la ville. On a cité des noms dont les cadavres qui les ont portés auraient servi de modèle à Alain Delon et à Jean-Paul Belmondo. Vrai ou faux, Borsalino fournit à ces deux acteurs un des meilleurs rôles de leur carrière. Dans un festival d'Amilcar et de Renault à nez pointu, Alain Delon est étincelant, les cheveux partagés en leur milieu par une raie modèle Rudolf Valentino et le regard d'acier d'un Georges Raft qui aurait fait une cure chez Bogomolets. Il porte le film à bout de bras, à bout de cils, à bout de poings. C'est devenu un lieu commun de dire qu'il est le meilleur comédien de sa génération et peut-être de quelques autres. Jean-Paul Belmondo est remarquable lui aussi dans un personnage taillé sur mesure et dans lequel on ne l'a pas lésiné les centimètres de gros plans. Quoi qu'il en soit, Borsalino est un film d'une grande qualité et cette histoire en deux tours de tête pour les chapeaux, quatre tours de taille pour les dames et un tour de ville pour Marseille devrait aisément faire le tour du monde.
C'est pas mal ça, Eugène. Hein. Quelle voix, quelle écriture.
Ah oui, il avait un talent fou, hein, Chalet. Moi, je me souviens, il venait, je faisais à l'époque, je faisais les flashs du soir, c'était en 70-71. Il allait au cinéma et il venait faire ses papiers à minuit en sortant du cinéma. Il les enregistrait ensuite, quoi. Et c'était un bon conteur aussi. Hein. Dans la vie, il racontait plein d'histoires, évidemment. Il avait côtoyé les plus grands acteurs, les plus grands réalisateurs surtout. Et comme j'aimais le cinéma, j'étais un passionné déjà de cinéma. On parlait de Raoul Walsh, on parlait d'un film extraordinaire qui est peut-être le plus beau des films noirs américains, qui est White Heat, L'Enfer est à lui, avec James Cagney. C'était un type qui connaissait tout ça, je veux dire.
En t'écoutant, j'ai envie de te poser une question. Il y a un truc qui ne te passionne pas?
Oh, il y a plein de choses.
Il y en a plein? Ah bon?
Oh, heureusement, pour moi, heureusement. Heureusement.
Tu vas faire des journaux à la capitale? Ça te passionne, faire des journaux? À quel moment tu découvres le sport? Le sport radiophonique, j'entends.
Ah, le sport radiophonique. Le sport radiophonique, je le découvre finalement assez tard, ouais. Puisque je suis resté environ 2 ans. À mon arrivée à Paris, hein, en 70, je reste 2 ans à faire les flashs, à faire des petits journaux. On faisait un journal en tandem le 18h, qui était déjà un journal assez important, avec Robert Namias. Je raconterai une anecdote à ce propos. Et puis, le 20h, qui était un gros journal, hein. J'ai fait le 20h, le gros journal, c'était le 19h. Une heure après, je faisais le 20h, j'ai fait les flashs, mais j'étais mauvais, j'étais pas bon. C'était un exercice que je n'arrivais pas à prendre. Et quand je remontais, il y avait le directeur de la rédaction de l'époque, Jean Gorini, qui était un type fantastique, mauvais caractère, mais fantastique, qui prenait ma copie et qui, info par info, ouais, me corrigeait, quoi.
Ouais. On se retrouve dans quelques instants, on fait une pause et puis on se refait, j'allais dire, le match. Pourquoi pas? Allez, à tout de suite.
Marc Tronchot.
Les enfants d'Europe 1, avec aujourd'hui comme invité Eugène Saccomanno. On va parler un petit peu sport. Tiens, on s'écoute un truc. 1971, la dernière étape du Tour de France contre la montre. Eddy Merckx et au micro Robert Chapat.
Le voici, Eddy Merckx maintenant, seul sur la piste. The Tomek n'est pas encore rentré. Un public qui lui réserve un accueil délirant et Zotomelk et son maillot blanc qui garde Eddy Merckx en point de mire en train de se battre pour la deuxième place alors que l'on le sait déjà, Van Impe n'arrivera pas tout de suite à la piste municipale. Eddy Merckx ne se relève pas. Il tient à se présenter au public dans le meilleur de sa condition physique. Et Eddy Merckx, maintenant, n'a plus que 100 mètres à couvrir. Le service d'ordre se met en place car on va envahir aussitôt la pousse top pour Merckx dans le temps de 1h10 minutes 32 secondes.
Eugène, Robert Chapat et quelques autres, le style d'Eugène Saccomanno va se nourrir de ces bons hommes-là, de ces formidables commentateurs de
sport. Ah oui, je crois, dans ce qui concerne, dans la partie du boulot qui concerne le commentaire. Mmh. Pour le reste, pas tellement, pour les papiers, pour les interviews, non, parce que ça, chacun a sa patte et son. Mais pour le commentaire, oui, par exemple, Couder était un type méridional en matière de rugby qui était extraordinairement généreux dans ses récits et tout. Et Robert Chapat était terrible aussi. Je veux dire, c'est vrai qu'il avait une faculté pour reconnaître les coureurs en pleine course. À l'arrivée, il donnait toujours le bon ordre. Il était extraordinaire.
Et qui t'amène au sport?
Ah ben, le sport, c'est à peu près deux ans et demi après mon arrivée à Paris. Et une place se libère au service des sports. Fernand Choisel est chef du service des sports. Mmh. Mais autour de lui, il n'a que des stars. Et il lui faut une petite main pour faire quand même le boulot. Moi, je suis pas un gros courageux, mais quand même, il lui fallait quelqu'un qui porte le nagra, qui aille faire les interviews. Et donc, à côté de, évidemment, je pouvais pas, Chapat, Couder, Jalin, tous ces types-là, ne refusaient pas de porter le nagra, mais tout de même, c'était des stars. Et donc, il lui fallait quelqu'un comme ça. Et en plus, on m'a bombardé pour avaler la pilule. Enfin, comme ils avaient vraiment besoin d'un type, il a besoin d'un sous-chef de service, comme à la préfecture. Uh-huh. Alors, j'ai dit, pourquoi pas, on essaiera. Et je me suis dit, je vais faire ça pendant 2-3 ans. Mais pendant 2-3 ans, ben, ça a duré tout le temps, quoi.
Le sous-chef de service, on va le voir à l'œuvre. Lors d'une occasion tragique, comme il en arrive beaucoup dans notre métier, le sport n'est malheureusement pas épargné. 1972, ce sont les Jeux Olympiques de Munich. Eugène, tu es l'un des envoyés spéciaux d'Europe. On écoute.
5 heures à peu près, 10 Arabes sont entrés au village olympique, entrés avec des grands sacs en main. Probablement les armes étaient là-bas. Ils sont entrés au village olympique. Ils sont venus au Connolly. C'est la maison où se trouvaient les sportifs israéliens, la délégation israélienne. Et probablement ils ont commencé tout de suite à tirer. Un de nos sportifs, lui, c'est l'entraîneur de lutte, Moshe Weinberg. Il est 34, il est tué. Et probablement l'autre, l'arbitre de lutte, Gottfried, est blessé gravement. Maintenant, on m'a dit que 10 personnes de notre équipe sportive sont encore là-bas comme otages. Les autres ont pu s'enfuir et il y a des pourparlers.
Il n'est pas tout à fait 11 heures quand les 3 hélicoptères atterrissent sur le terrain militaire de Fürstenfeldbruck. Il fait noir, la piste est déserte, otages et Palestiniens devinent devant eux, à 50 mètres, l'ombre d'un avion. Il y a 2 ou 3 Palestiniens dans chaque hélicoptère. Ils sautent rapidement des appareils et les tireurs d'élite de la police allemande qui sont couchés sur le bord de la piste ouvrent le feu. Des cris déchirent la nuit, on les entend depuis le poste de commandement. 4 fédaïnes sont fauchées par les balles. Dans les hélicoptères, c'est sans doute la panique puisque les prisonniers sont encore attachés aux poignets et aux jambes. Furieux d'avoir été trompés, les Palestiniens retournent en courant vers les appareils ou se dispersent dans la nature. L'un d'eux prend un pilote allemand pour otage et tente de se mettre à l'abri sous l'avion. Une rafale crépite, le pilote est blessé et le Palestinien s'enfuit dans le noir. Un autre lance une grenade sur l'un des hélicoptères qui se met à flamber.
Un des 2 hélicoptères a explosé en raison d'une grenade qui a été lancée par un des terroristes. Il a brûlé complètement.
Les pompiers interviennent, mais ils travaillent sous le feu nourri de 2 fédaïnes. L'appareil flambe avec une partie des otages. Les autres, ceux qui tentent de s'enfuir, ceux de l'autre hélicoptère également, sont abattus froidement. Au total, 9 victimes chez les otages, plus un policier qui tombe sous une rafale.
La tragédie de Munich, Eugène, c'est C'est le souvenir professionnel le plus fort de ta carrière, peut-être ?
Oh, sans doute, oui, oui, c'est le plus marquant en tout cas, c'est vrai, parce que nous avons été les premiers à Europe 1 à annoncer la mort des premiers Palestiniens, des premiers otages israéliens. J'ai vu de mes yeux vus les premiers Palestiniens arrêtés par la police allemande sortir par la porte des aviateurs allemands. Et contrairement à l'AFP qui prétend, l'agence française a minuit annoncé tous les otages étaient sains et saufs. Mmh. Moi, j'avais déjà dit sur l'antenne d'Europe 1, effectivement, puisque j'étais un témoin direct, que hélas, ça s'était terminé tragiquement. Et on dans vient le sang, de oui. l'entendre avec les sons qui sont là, qui sont irréfutables. Et c'est une soirée dramatique. Le matin aussi, très tôt, ça avait été terrible, parce que moi j'étais rentré en sautant avec Dominique Chapat, le fils de Robert Chapat, qui était à l'époque secrétaire de rédaction. On avait une voiture d'Europe marquée, hein. On était allé dans le parking, c'était avant 8h. Et c'était Ben Porat, le correspondant d'Israël, d'Europe 1 en Israël, Ben Porat qui nous avait alerté, parce qu'on disait toujours que Ben Porat était plus ou moins dans les services secrets. En tout cas, il appelle la rédaction et il dit, il se passe quelque chose de très grave, il y aurait des morts à Munich. Et c'est là où Paris nous avertit, on part là-bas et journalistiquement on a eu une certaine chance puisque le village n'était pas encore fermé. On est rentré par le bar qui avait deux ouvertures, une extérieure, une intérieure. L'intérieur n'était pas du tout fermé, donc avec Dominique Chapat on est rentré, on s'est renseigné, il y avait déjà quelques flics et surtout des ambulances près du pavillon israélien. Et surtout je vois arriver en remontant l'allée Daniel Robin, qui était le meilleur lutteur français et qui avait des copains, qui s'était entraîné plusieurs fois avec les Israéliens. Et là évidemment j'avais mon agra et je lui ai demandé de me décrire un peu ce qu'il venait de voir. Et Daniel Robin me raconte, pour lui en larmes, quoi, ce qui s'était passé. Et ça a été le premier son qu'on a diffusé.
Page tragique comme quelques années plus tard, celle du Ezel. On a écouté le grand reporter. J'ai envie de revenir au personnage, j'allais dire le plus connu, le plus populaire, celui de commentateur, d'intervieweur sportif. Petit clin d'œil. Quand en 93, l'Olympique de Marseille devient champion d'Europe.
But de fabuleux de Basile Boli. Oh, oh, quel but! On passe, on passe, on passe, que tu nous fais plaisir. Oh, sur ce corner fabuleux d'Abidé Pédé, Basile Boli, notre brave Basile.
Et l'arbitre,
Marseille est champion d'Europe. Je vous le dis, Marseille est champion d'Europe. C'est la première fois dans l'histoire du football français qu'une équipe remporte la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est fabuleux. Marseille, heureux. Marseille, euphorique ce soir.
Allez, ouais. Les larmes de Barry et celles de Munich hier soir sur le visage déchiré de Basile Boli qui craque comme il s'était écroulé sur la pelouse après la défaite devant l'Étoile Rouge il y a 2 ans. Baz, comme on l'appelle, ce brave type de Basile a eu la fantastique intuition d'aller se placer au premier poteau sur ce corner d'Abedi Pelé. 1 minute avant la mi-temps, il a du coup terrassé psychologiquement les Milanais. Lui, le défenseur héroïque, le plus ancien des Blacks de l'OM, celui qui pleure à Barry et qui éclate de rire en permanence dans la vie de tous les jours. Basile Boli, qui était arrivé de sa Côte d'Ivoire natale pour débarquer dans la grisaille de Romainville, où Giroud, le sorcier d'Auxerre, était allé le chercher un jour quand il avait 16 ans pour en faire le plus costaud et le plus rapide des défenseurs français.
Basile Boli, c'est un garçon qui est arrivé...
À quel âge il est arrivé à Auxerre?
Il est arrivé à 14 ans et demi. Enfin, nous l'avons repéré à 14 ans et demi, il est arrivé à 15 ans, un petit 15 ans. Son père, qui avait été un héros de la 2e DB, qui a libéré Paris dans un char, était en poste diplomatique à Paris. Donc il était à Paris, et il jouait donc à Romainville, il était chez sa sœur, et il est venu chez nous, nous l'avons repéré, il a choisi entre plusieurs clubs, et nous l'avons fait venir avec son frère. Il a fait une progression exceptionnelle et une année après être arrivé quasiment, il était en équipe première. Il a joué à 15 ans et 4 mois son premier match à Monaco et nous avons fait un partout. Et puis ça c'était en avril et puis au mois de juillet il a gagné sa place pour l'équipe professionnelle. Il n'a plus jamais quitté, il a donc joué à 16 ans en équipe professionnelle.
Allez, 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 allez.
Il n'y a pas de quoi. Vraiment, l'OM, ça a été excellent cette année. L'ambiance, tout. Donc, on était vraiment très confiants.
C'est ça la force de l'OM cette année.
C'est ça la force. C'est un moral d'acier. On croit vraiment en nous, quoi.
Ça fait à 21 ans d'avoir déjà tout gagné.
J'ai pas tout gagné. Pour le moment, il y a un match samedi à faire contre PSG si on veut être champion.
Le style Sacomano entre le général de Gaulle et le journaliste brésilien de base, quand tu te réécoutes, Eugène, tu te trouves excessif ou tu te dis c'est tout bon pour l'auditeur?
Oui, c'est peut-être ça finalement. Je sais plus, parce que on est partagé entre l'enthousiasme et puis quelquefois il faut effectivement de la réflexion, mettre un peu la passion de côté, ou inversement, quand Marseille est champion d'Europe, c'est la passion qui prédomine. Mais il est vrai, c'est pour ça que j'ai tendance à dire, et c'est pas du tout, j'ai tendance à dire on est journaliste, point final. Mmh. On n'est pas journaliste sportif, journaliste politique. On doit être capable, et il y a beaucoup de mes confrères qui l'ont été dans les grands moments historiques du XXe siècle. Par exemple, je me souviens de Fernand Choisel faisant le reportage et le compte-rendu des événements de 68 au Mexique. Il était arrivé quelques jours auparavant. C'est lui qui a couvert les événements du Mexique sur l'antenne. Bon, et des exemples comme ça, il y en a plein.
Mais il faut, c'est vrai, une proportion juste, parfois excessive, de folie et de fête dans le commentaire sportif.
Oui,
je veux
dire,
et Giroud, Eugène Sacomano, de ce point de vue-là, c'est un petit peu la même chose. On a entendu Giroud tout à l'heure. Oui. Quand Giroud commence à se lâcher, je veux dire, ça donne des moments de radio formidables. Quand il est à côté de toi, c'est pas mal.
Je le préfère quand même quand il est explicatif. Parce que c'est vrai que c'est un consultant extraordinaire. Oui. Et Giroud, c'est terrible parce que je me souviens de la finale de 98. La victoire de la France, il m'a fait perdre. On avait l'antenne, on avait fait un truc formidable à la Porte Dauphine, et donc il y avait du public, c'était terrible. La France venait de gagner la Coupe du Monde et on avait des obligations d'antenne jusqu'à 1h du matin. Et Giroud, on sort du stade, on avait fait l'essentiel sur place, on sort du stade, il était environ 11h15 et on va dans le parking, incapable, il se souvenait pas d'où il est. On a mis 1 heure, ou 3/4 d'heure, j'exagère, pour retrouver sa guimbarde. On a fait 3 parkings du Stade de France, c'est terrible. Je lui dis, mais tu es fou, tu nous fais rater l'antenne et tout. Mais t'inquiète pas, on va la retrouver. C'est un type avec une petite voiturette de parking, là, qui l'a reconnu. Ah, monsieur Giroud, cherchez quoi, ma voiture? Ah, bah alors, on a fait le tour, il a enfin retrouvé sa voiture, on est arrivé à la Porte Dauphine, l'émission était quasiment finie, quoi. Ça, c'est tout Giroud.
On se retrouve dans quelques instants avec Eugène Sacomano.
Marc Tronceau.
Les enfants d'Europe 1 avec comme invité Eugène Sacomano. Sacco, le diminutif, il va venir ouais. Vite.
Oui, Sacco, Eugène, Gégène, Sacco. Chapat m'appelait toujours Gégène. Platini aussi, Gégène. Mais bon, c'était Sacco souvent.
Les personnages qui ont, je vais dire, compté davantage dans cette vie à Europe 1, tu te souviens de qui? On a parlé de Jacques Paoli tout à l'heure.
Oui, il y avait Jacques Paoli et Georges Leroy qui étaient les patrons de la rédaction. Et puis il y avait toute une équipe qui ensuite passait à TF1 avec Moujotte, Namias, Carrérou, Dacier. Et ça, c'était des types valeureux, attachants. Il y a eu Levaille aussi qui était là.
C'est assez étonnant et assez sympathique à la fois, cette impression, Eugène, que tu nourris plusieurs vies. Il y a une vie à l'écoute du sport, une vie de reporter, une autre assez gourmande de littérature, et une troisième qui est ta vie privée, de famille, tes amis, bientôt ta vie de conseiller municipal de la gare de Fresnay. C'est une impression juste ou pas, ce mélange dans lequel tu te sens finalement très très à l'aise?
Oui, finalement c'est vrai, quoi. C'est vrai, mais ce qui est un peu emmerdant, c'est que je cours après la vie, et que même maintenant où je commence à avoir dépassé un certain âge, je suis toujours en activité, je suis toujours conseiller municipal à la gare de Fresnay. Ouais. Je suis toujours fanat de ciné et de livres, surtout.
Et puis de littérature. Et puis de littérature.
Oui, de littérature, oui, effectivement.
C'est vrai, Giono? Giono, tu as
véritable
culte.
Ah oui, oui, Giono, j'aime beaucoup. Mais je pense que mes trois ou quatre préférés, c'est Giono, bien sûr. Mais il y a effectivement Louis-Ferdinand Céline. Il y a Patrick Modiano, que j'aime beaucoup. Et puis Michel Tournier, qui a un talent exceptionnel.
On écoute ce papier que j'ai retrouvé, diffusé sur l'antenne le jour de la mort
de Giono, hommage sur l'antenne d'Europe numéro 1 du journaliste Charles Villeneuve à Jean Giono.
Ce porte-parole de l'éloquence méditerranéenne que l'imagerie populaire s'imaginait volontiers un pastis à la main et une boule de pétanque dans l'autre pour confesser les paysans et les bergers de Provence était tout le contraire de cela. Jean Giono, pour tous ses pairs de l'Académie Goncourt, c'était Jean l'Ermite. Hervé Bazin, malicieux, lui avait trouvé ce surnom, justifié d'ailleurs par l'unique apparition annuelle de Giono le jour où, chez Drouan, un mois avant l'attribution du prix Goncourt, tous les académiciens se réunissaient pour le dernier tri des possibles. Seul voyage que Giono acceptait de faire, lui qui voyageait surtout dans sa chambre grâce à son imagination. Le reste du temps, il suivait les autres réunions au téléphone. Le président Roland Dorgelès posait le téléphone sur la table, chacun haussait le ton pour qu'à l'autre bout du fil, l'ermite de Manosque puisse entendre. De temps en temps, Philippe Herrien interrompait le débat, reprenait le téléphone et demandait « Alors Jean, qu'en penses-tu ?» Et Giono, toujours avare de paroles, laissait tomber un nom, en récusait un autre. Il préférait ainsi rester accroché au téléphone une heure, deux heures durant, plutôt que de rompre sa solitude qu'il enfermait dans la tour phare de sa propriété de Manosque. Il aimait être seul, mais acceptait facilement le dialogue qu'il nouait avec humour, même quand on lui parlait du Giono antimilitariste, celui qui lacérait en 39 les affiches de mobilisation et qui avait répondu à sa feuille d'appel sous les drapeaux en faisant paraître un livre intitulé « Le refus d'obéissance ». « Il n'y a rien, ni personne à adorer nulle part », disait cet ancien employé de banque qui commença à écrire le jour de la faillite de sa banque. Et Giono, qui comme ses héros provençaux préférait aux gens les choses et les bêtes, Giono n'avait pas peur de la mort. Souvent, Philippe Herrien l'a entendu dire « La mort, je ne la vois pas, je la sens naturelle, je sais qu'elle est là. Elle viendra à son heure et que par conséquent, tout est parfait. »
Alors j'accepte bien évidemment les remarques de mes maîtres et tu en as une à faire, Eugène, sur la prononciation.
Oui, non, mais là, Charles, qui a fait un bon papier sur Giono, a dit Giono, et je viens de le dire d'ailleurs en répétant, on a toujours dit Giono et pas Giono, c'est-à-dire on a francisé son nom depuis longtemps, depuis sa naissance, depuis son père aussi qui était cordonnier à Manosque, mais là il a cité un très beau texte qui s'appelle « Refus d'obéissance », mais il y en a encore plus beau que je recommande à tous ceux qui aiment Giono et qui sont pacifistes, c'est donc « Recherche de la pureté ». Et là c'est extraordinaire, « Recherche de la pureté ».
On a entendu Charles Villeneuve évoquer l'Académie Goncourt, au risque de surprendre ceux qui pensaient qu'on allait surtout parler sport avec Eugène Saccomanno, poursuivons sur ce terrain qui n'est pas un stade, et poursuivons avec Fabrice Luchini, dans l'exercice qu'il affectionne, lire Céline, extrait du voyage au bout de la nuit en 94.
J'ai tourné encore pendant des semaines et des mois tout autour de la place Clichy, d'où j'étais parti, et aux environs aussi, à faire des petits métiers pour vivre, du côté des Batignolles, paracomptable. Sous la chaleur des autos, juin venu, celle qui vous brûle la gorge et le fond du nez, presque comme chez Ford, je les regardais passer, passer encore pour me distraire, les gens filant vers leur théâtre ou le bois le soir. Toujours plus ou moins seul, pendant mes heures libres, je mijotais avec mes bouquins et des journaux, et puis avec toutes les choses que j'avais vues. Mes études, une fois reprises, les examens, je les ai franchis. A eu, à dia, tout en gagnant ma croûte. Elle est bien défendue, la science, je vous le dis. La faculté, c'est une armoire bien fermée, des ponts.
Fabrice Luchini, lisant Céline. Europe 1 était partenaire de l'événement quand Luchini a remis ça il y a un peu plus d'un an. C'était le voyage en Amérique. Alors pourquoi j'ai choisi Céline? Eh bien parce que Eugène Saccomanno adore cet auteur au point qu'il va lui consacrer un livre afin de réparer l'injustice qu'un jour l'Académie Goncourt lui fit. Ça t'a pris comment cette envie de jouer les avocats de Louis-Ferdinand Céline qui n'a pas eu le Goncourt une certaine année?
Ça m'a pris, c'est mon maître marseillais Louis Deville qui à chaque fois me serinait. C'est un scandale, il roulait les airs, il me disait, tu te rends compte, c'est un scandale, ce petit conte Guy Mazzoline qui travaillait ici à la Marseillaise et qui a eu le Goncourt en 32 pour un bouquin minable alors qu'il y avait Ferdinand qui avait fait, alors, et toujours il me disait ça, bon ça a duré quelques temps, mais après moi j'ai pensé à cet épisode de la vie de Céline, j'ai mis en scène un peu dans ma tête comment ça s'était passé, y compris chez Drouin et tout, et ce qui m'amenait à faire un roman, hein, parce que c'est un roman, c'est pas une thèse ou c'est pas un truc sur Céline. C'est un roman avec deux personnages centraux qui sont Louis Ferdinand Céline et Guy Mazeline, l'auteur des Loups, qui finalement a eu le Goncourt. Alors effectivement, le départ et la fin, il y a du vrai, de la vérité. Et ce qui est amusant d'ailleurs quand on fait ce type de livre, c'est que les gens vous demandent toujours après, mais est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est faux. Tout ça c'était évidemment des inventions, mais qui enfin, qui je crois, parce que j'avais une bonne critique.
Oui. Cette passion commune pour un personnage comme Céline, cette passion pour le sport, on retrouve le côté noir et blanc de Marseille que tu évoquais tout à l'heure.
Hein, il y a cette. Oui. C'est vrai, parce que même dans le cinéma, c'est un peu ça, quoi. J'aime bien. Et puis j'aime aussi des gens qui sont à la marge. Il y a un cinéaste, par exemple, portugais qui est mort maintenant. Il avait 85-90 ans. João César Monteiro, qui est un film extraordinaire. Le mystère de la Maison Bleue est un film monumental. Et il a fait des films alors de fous. C'est un cinglé, mais un cinglé avec un talent fou. Et c'est vrai que j'aime ce genre de personnages, comme j'aime en littérature, indépendamment des gens que je citais tout à l'heure. J'aime les cinglés, à la limite les cinglés raisonnables, mais pas du tout raisonnables d'ailleurs, comme Léon Blois, par exemple. Un fou dans son genre, quoi. Ça m'a passionné, tout ça. J'ai sauté de l'un à l'autre. Mais à chaque fois que je suis dans un sujet, je m'y enfonce complètement. Ça, c'est vrai.
Cette émission se termine, Eugène. J'ai demandé à celui qui a été à pas mal de reprises ton réalisateur, Marc Fréjean, de me conseiller sur le bon extrait sportif que je pourrais prendre. Il m'a conseillé celui-ci. C'est la victoire de la France sur la Croatie, 98. Elle ouvre la voie de la finale. La Coupe du Monde pour la France.
Top, ça vient de démarrer. Notre chronomètre officiel a dû appuyer sur sa petite montre. But de Davor Šuker. But de Davor Šuker ici, à Saint-Denis. Alors attention, l'égalisation immédiate de Thuram. Thuram qui égalise immédiatement après. Fantastique égalisation.
Un rush.
C'est Thuram, oui. Thuram, Jorkaeff lui remet bien dans sa course de l'intérieur. Thuram égalise pour l'équipe de France. Ouf, on a eu très très peur. Ce sont les Français là qui ont le ballon avec d'abord Emmanuel Petit, puis Lisa Razou. Nous sommes sur le côté gauche de l'attaque française.
Thuram qui perd le contrôle de la balle, mais pas pour longtemps. Il frappe. Ballon but. But de Thuram. But de Thuram qui a vu l'espace et qui a frappé à l'instant. Il marque Thuram.
Qui va conduire les Français à la finale de la Coupe du Monde. Oh, quel but du gauche, mais quelle puissance, quelle technique. Il amortit cette longue, très talentueuse transversale de Zinedine Zidane, dit Zizou. Et là, en pleine course, il amortit de l'intérieur du pied droit. Il file, et là il va buter devant Yarny. Il fait un dribble intérieur, il frappe du gauche puissamment. Deuxième poteau et pâquerette pour Monsieur Lalic. Voici que la France mène 2-1.
L'arbitre a sifflé.
Oui,
il a les mains dans les poches. C'est pas très bien qu'il ait les mains dans les poches.
Il va pas donner un carton rouge à Laurent Blanc.
Est-ce que Laurent Blanc, qui se chauffe depuis déjà pas mal de temps, est rouge pour Laurent Blanc?
Oh putain.
Laurent Blanc est expulsé.
Catastrophe. Pour l'équipe de France, Laurent Blanc ne jouera pas la finale de la Coupe du Monde.
Alors que là, c'est un dégagement des Français et cet arbitre qui ne siffle toujours pas la fin de ce match. On joue depuis 49 minutes.
C'est fini, Eugène, allez-y.
France est en finale de la Coupe du Monde. La France est en finale de la Coupe du Monde. Extraordinaire. Ça faisait, vous l'avez dit, Pierre-Louis, 3 demi-finales que nous vivions. Nous n'arrivions pas à passer ce cap infranchissable. Et là, ça y est, la France est en finale. La France jouera dimanche la finale de la Coupe du Monde contre le Brésil. Sans
notre ami Lolo, le pauvre, qui a été exclu injustement par cet arbitre, monsieur Garcia Aranda, qui n'a rien vu, mais qui était à 3 mètres de l'action, qui n'étant pas sûr de lui, n'aurait pas dû siffler l'expulsion de Laurent Blanc. Enfin, nous serons en finale, c'est déjà extraordinaire.
Voilà, la passion selon Saint-Eugène, avec l'apôtre Pierre-Louis Basse à tes côtés.
Oui, Giroud. Pierre-Louis Basse, avec qui nous avons été un peu éloignés pendant 5 ans tout de même, hein, à mon départ d'Europe 1. Et on s'est retrouvés il y a quelques temps, joyeusement. On a été très contents, très heureux, c'était très émouvant de se retrouver. Pour tout dire, on était fâchés, on s'est réconciliés. Voilà.
C'est un bel extrait, ça, non?
Ah oui, ça, c'est un très, résumé, très bel extrait.
Bon parce choix que... de Marc Fréjean.
Oui, oui.
Et Marc, tu connais bien. Hein.
Marc Fréjean était formidable parce qu'effectivement, il connaissait toutes mes prestations de A à Z. Et... Merci, Marco.
Cette émission touche à sa fin, je le disais, ça va toujours trop vite. Hein.
Mais c'est bien, je trouve. C'est la bonne distance parce qu'on a le temps de raconter des choses. Donc c'est très bien.
À très vite, Eugène, je l'espère. Tu sais que tu es ici chez toi. Jean-Pierre Alcaba, je te l'ai dit. D'ailleurs, il est même venu te le dire personnellement dans ce studio tout à l'heure.
Voilà. Oui, mais je suis chez moi en face aussi. Il n'y a que l'avenue Montaigne qui nous sépare. Hein.
C'est vrai, c'est pas beaucoup. Quant à vous, auditeurs, je vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour cette émission Les Enfants d'Europe 1 que vous aimez, paraît-il. En tous les cas, vos témoignages me le laissent penser. Et en attendant ce dimanche prochain, passez une bonne semaine à l'écoute, bien évidemment, comme je vous le dis toujours, d'une très belle radio.
À la semaine prochaine, Marc Tronchot.